Entre nous, on se dit tout.
Interview.
Entrevue.
Bonjour, chers auditeurices de Radiola. Aujourd'hui, nous accueillons Anne Lachance. Bonjour, Anne.
Bonjour, Nadia.
Alors, vous avez été conseillère municipale adjointe aux solidarités à Diolfi. Et puis, depuis un an, vous êtes bénévole à l'association Espoir.
C'est ça. Oui, c'est exact.
C'est une association avec laquelle vous aviez déjà travaillé, du coup, quand vous étiez à la mairie.
J'ai travaillé avec cette association déjà quand j'étais à la mairie. Donc, ça fait une dizaine d'années que je connais cette association. Et dès que j'ai été libérée de mes fonctions d'élue, j'ai rejoint les rangs des bénévoles d'Espoir.
D'accord. Qu'est-ce qui vous a motivé, du coup, pour passer au bénévolat avec cette association en particulier ?
À l'époque, parce que maintenant il y a une deuxième association qui accueille les réfugiés, l'association Passerelle. Mais à l'époque, il n'y avait que l'association Espoir. Et comme je les connaissais bien, que c'était un groupe avec lequel j'étais en phase au niveau des valeurs, de l'éthique, de l'accompagnement, j'ai tout naturellement rejoint Espoir.
D'accord. C'est une association qui est installée depuis 1994, je crois, donc sur Diolfi. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de cette association,
alors,
en quelques mots ?
L'histoire, je la connais peu parce que c'est pas une histoire, je n'ai pas participé à la création de cette association. Hein. Je sais qu'elle date de 1994, à l'époque de la guerre en Yougoslavie. Voilà. Et il y a eu une demande pour accueillir... une famille pendant quelques temps pour qu'elle puisse un petit peu sortir du conflit, des zones de bombardement et se reposer. C'est l'histoire que je connais, j'en sais pas beaucoup plus. Okay. Et l'association étant créée, elle s'est pérennisée et elle s'est ouverte à l'accueil d'autres familles. Okay. Donc il y a eu une famille de Géorgie, je pense, il y a eu une famille d'Arméniens, et puis ensuite il y a eu le conflit en Syrie, et on a accueilli de fait beaucoup de familles syriennes.
Donc voilà. Toujours des personnes réfugiées en situation de fuite, en fait, ou difficile, qui étaient en recherche de refuge.
Oui. Oui, mais pas seulement de refuge parce qu'elles viennent de zones de conflit, on accueille aussi des familles qui viennent d'autres pays comme l'Albanie ou l'Arménie ou même l'Inde qui ont des conflits sur place avec d'autres parties de la population. C'est pas vraiment des zones de conflit ouvert, mais c'est des zones d'instabilité ou bien de difficultés de conditions de vie qui font qu'elles souhaitent venir s'installer en France.
Ok.
Voilà. Merci. Il y a aussi, par exemple, un jeune Guinéen en ce moment qui est passé de la protection du minorat à une majorité, qui rend les choses beaucoup plus difficiles pour son accueil sur le territoire français. Donc, on l'accompagne. Voilà.
D'accord. Et aujourd'hui, dans l'actualité de l'association, il y a plusieurs activités que vous proposez, notamment autour des mercredis qui se sont ouverts autour d'une salle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu
Voilà,
plus
là, vous ne me voyez pas sourire, bien entendu, mais je souris parce que c'est un grand événement. Ça s'est fait d'une manière très rapide, très spontanée. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur depuis longtemps et qui a pris une belle forme, qui est très enthousiasmant, qui est très réjouissant. Voilà.
Qui vous tenait à cœur depuis longtemps ?
Oui, ça nous tenait à cœur depuis longtemps parce qu'effectivement, cet accompagnement des familles, sous la forme qui est proposée par Espoir, on travaille en binôme, c'est-à-dire il y a deux personnes par famille qui sont les personnes référentes et qui accompagnent ces familles, qui vont les voir pour le soutien aux devoirs, pour les cours de français, pour les problèmes de santé, enfin, pour tout ce qui est l'accompagnement. Et en fait, d'aller deux ou trois fois par semaine dans la famille, c'est contraignant au niveau du temps et de l'énergie. Et pour la famille, c'est pas toujours très agréable non plus d'être un petit peu envahi dans son intimité plusieurs fois par semaine. Donc l'idée de créer un lieu où toutes les familles sont rassemblées, ça paraissait beaucoup plus cohérent, beaucoup plus logique.
Et ce projet d'avoir un lieu, donc, c'est quelque chose qui était une demande de longue date ?
C'est une demande de longue date, puisqu'on en avait déjà le projet quand j'étais à la mairie, mais ça n'avait pas pu se faire. Ça s'était fait quelques mois pour des cours de soutien de français avec une association qui s'appelle Alpha 26 et une personne qui était formée au français langues étrangères, le FLE, mais ça n'a duré que quelques mois parce que la salle que nous prêtait la mairie n'a plus été disponible, on n'a pas pu en trouver une autre. Donc, de fait, le projet est un petit peu tombé à l'eau.
Ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé la donne ? Qu'est-ce qui fait que ce projet est devenu plus pérenne ?
Ce qui a changé la donne, c'est que la mairie, suite à l'invasion de l'Ukraine, la mairie a organisé très vite une réunion publique. Je dis très vite parce que c'était le 22 mars. Une réunion publique en mairie avec monsieur le maire, des élus, des adjoints, les responsables du CCAS, aussi bien les élus que les salariés de la mairie. Et puis les représentants des associations qui s'occupent du social et que je voudrais citer. Donc il y avait l'entraide communale, les Restos du Cœur, l'épicerie solidaire, soutien et partage, le lien 26 et bien entendu passerelle et espoir. Voilà, et il y avait un public très nombreux. Et en fait, à cette réunion, M. Glaise, l'adjoint en solidarité, nous a informé un petit peu des directives préfectorales en direction des Ukrainiens. Et il y a eu beaucoup de questions-réponses entre le public et les associations. Et on s'est rendu compte que les gens étaient très motivés, qu'ils avaient envie, besoin d'aider, d'apporter du soutien. Et cette réunion nous a donné conscience de l'importance de l'action des acteurs sociaux bénévoles sur le territoire de Diolfi. Et à la suite de cette réunion, Passerelle et Espoir ont décidé de se réunir, de se rencontrer. Donc, on a organisé une réunion entre nous. Mmh. Et c'est à la suite de cette réunion, au cours de cette réunion, qu'on s'est dit, c'est quelqu'un d'espoir, je crois, qui a dit « Mais pourquoi on ne demanderait pas une salle à la mairie pour donner les cours de français aux Ukrainiens ?»
Donc, faire remonter
Ukrainiens.
Ce projet
voilà,
qui était
faire
déjà
remonter
là
ce projet. Puis la mairie nous ayant dit « On mettra tout en œuvre pour faciliter l'arrivée et l'installation et l'accueil et l'accompagnement des Ukrainiens. » Donc, on en a profité pour poser cette demande qui a été accordée tout de suite. Et très vite, on a fait le premier mercredi, voilà, qui a été un grand succès.
Donc, en fait, finalement, très rapidement, après le début du conflit ukrainien, moins d'un mois après, il y a tout un enchaînement qui a permis de débloquer la situation et de faire en sorte d'ouvrir cet accompagnement et ces,
très vite, parce que
moyens.
Ouais, le premier mercredi, c'était le 6 avril, donc c'est vraiment... Okay. Dans le premier mois qui a suivi le début du conflit.
Et du coup, cette salle, aujourd'hui, qui est-ce qui en bénéficie ?
Alors, cette salle donc, qui est prêtée par la mairie, elle s'est vite... Je ne réponds pas tout de suite à votre question, parce que j'ajoute que cette salle s'étant avérée trop petite, enfin, pas assez... elle a très vite été doublée par une deuxième salle qui a été accordée aussi en un temps record. Alors, le public accueilli, ce sont bien entendu les familles ukrainiennes, mais du fait de la problématique dont je vous ai parlé avant, d'être obligé de passer dans chaque famille pour aller faire des cours, pour aller faire des visites, pour les rencontrer, pour voir si tout va bien, on s'est dit, on va regrouper toutes les familles, pas seulement les Ukrainiens, les autres aussi. Donc, on a créé cette dynamique-là de faire venir tout le monde dans ce lieu. Donc il y a des Ukrainiens, mais il y a aussi des Albanais, des Indiens, Marocains, Guinéens. Voilà, tout le monde est là et c'est très convivial.
Okay. Et qu'est-ce qui s'y fait du coup dans ces temps
Alors, dans ces temps, en fait, au départ, on a pensé faire deux temps. Un premier temps de 14h à 16h, qui est plutôt dédié à la rencontre, au jeu avec les enfants, au goûter, voilà, la conversation, faire que les gens se connaissent, qu'on échange un petit peu les petites nouvelles, les histoires, les problématiques. Et le deuxième temps, de 16 à 18, est vraiment dédié au travail d'études, c'est-à-dire des cours de soutien pour les enfants, qui sont tous scolarisés, qui ont tous été scolarisés très rapidement, et des cours de français avec des gens formés en FLE, français, langues étrangères, et des cours de 16h à 18h pour les adultes.
Ok, merci. Et quels étaient les bénéfices qui étaient attendus au départ de ces temps et de l'ouverture de cette salle ?
Alors, on n'a pas tellement réfléchi aux bénéfices, autre ceux que autre que ceux dont je vous ai parlé, c'est-à-dire d'avoir un peu moins de dépenses d'énergie pour les bénévoles et pour les familles. Donc on s'est dit, ce sera bien, ils seront tous ensemble. Et puis, il y aura moins de bénévoles mis à disposition, du coup. Et ça permettra d'avoir un peu plus de temps chacun. Et le bénéfice qui s'est avéré, en fait, c'est que, d'une part, Passerelle et Espoir ont appris à travailler ensemble. Les deux associations ont appris à se connaître. Les bénévoles, on ne se connaissait pas forcément tous entre nous. Et puis, c'est surtout les familles qui ont appris à se connaître entre elles. Toutes ces familles étrangères, d'horizons différents, de langues différentes, d'alphabets différents, de cultures différentes. Elles se sont connues et chacune a pu constater qu'elle n'était pas seule dans son coin à être un petit peu réfugiée, perdue, isolée. Voilà, tout le monde a pris... Voilà, les enfants ont fait connaissance, ceux qui n'étaient pas dans la même école, voilà, les parents ont fait connaissance. Les bénévoles, du coup, ont pu connaître toutes les personnes qui sont accueillies à Diolfi, au lieu de s'occuper un petit peu que d'une famille ou deux familles en particulier. Donc, ça a créé vraiment une dynamique de rencontre, de convivialité, surtout en jouant, en parlant. Il y a toujours des goûters, chacun amène une spécialité de son pays. Voilà, il y a beaucoup d'échanges. C'est vraiment un lieu d'échange et de partage.
Oui, un temps vraiment vivant, j'entends, et vraiment un temps d'inclusion et pas juste
d'intégration. Voilà, et du coup, voilà, c'est pas réservé aux Ukrainiens, tout le monde y participe. Et les cours de français, ben, ça commence à se savoir. Il y a une dame à Diolfi qui est uruguayenne et qui souhaite améliorer son français. Elle est venue spontanément se présenter au cours et elle a été accueillie et ça crée aussi une dynamique différente parce qu'elle vient d'ailleurs. Quoi. Et c'est ce mélange qui est très, très vivant, très agréable à vivre.
Est-ce que vous voyez aussi des bénéfices par rapport au reste de la population et qu'est-ce que ça change par rapport à la manière dont les choses étaient gérées avant?
Je pense que ça crée vraiment de l'ouverture. Ça crée vraiment de l'ouverture parce que les réfugiés ne sont plus considérés comme une espèce de petite minorité un peu isolée dans un ghetto dont on entend parler mais on ne les connaît pas. Là, on les voit, et je veux dire, les gens qui sont au café d'en face, les voir rentrer, sortir. Il y a plein d'autres bénévoles qui étaient à cette réunion publique de la mairie qui se sont rapprochés de nous aussi. Donc, ça crée aussi une dynamique de connaissance dans le village, c'est-à-dire que les gens maintenant reconnaissent les personnes accueillies, chacun se salue, on se dit bon, et c'est important quand on n'est pas chez soi, quand on est étranger, quand on vient d'ailleurs, c'est important que dans un village, les gens vous disent bonjour parce qu'ils vous reconnaissent.
Oui, donc il y a une vraie visibilité et une inclusion dans la vie du village, vraiment, pas simplement au sein des associations, et pas que dans le pathos, quoi.
Voilà, exactement. C'est joyeux, c'est convivial, c'est festif. On organise des sorties. Il y a une de nos bénévoles qui propose un pique-nique chez elle à la campagne. Voilà, on essaye de créer des activités, de créer de la dynamique. Bon, ça demande beaucoup de moyens et beaucoup de temps, mais on y arrive et c'est ça qui fait du bien.
Ça marche. Mmh. Justement, par rapport à ça, comment aujourd'hui, si on veut aider ces personnes et aider l'association Espoir, comment on peut faire?
Alors, on peut faire de différentes manières. On peut venir le mercredi après-midi, donc au foyer de la Halle, pour donner de son temps, soit pour jouer avec les enfants, pour les emmener en promenade, ou bien aider au soutien scolaire, ou bien pour ceux qui ont et celles qui ont des compétences, pour donner des cours de français. Parce qu'effectivement, il faut qu'on soit le plus nombreux possible pour qu'il y ait un turnover et qu'il n'y ait pas une lassitude, une fatigue, parce que c'est un engagement sur du long terme. On peut aussi faire des dons, bien entendu, à Espoir, des dons en espèces. Et on peut aussi contacter Espoir pour devenir bénévole à Espoir, tout simplement. Voilà, donc je donne l'adresse d'Espoir. espoir.dieulefi@gmail.com.
Ben super, merci beaucoup Anne Lachance d'avoir participé à cette interview aujourd'hui. Et puis ben, je vous souhaite beaucoup de joie et de beaux accompagnements au sein de l'association Espoir.
Merci beaucoup, Nadia. Merci.
Radio-la.media.